Chapter 11, qu'est-ce que ça veut dire pour les États-Unis et le Canada? Eh bien, ça donne la possibilité à une organisation comme WeWork d'aller littéralement relever du financement, de se protéger de ses créanciers. Ça va leur donner la possibilité d'aller renégocier leurs baux commerciaux. Ils ont un paiement mensuel pour différents édifices, pour différents endroits, localisations qu'ils ont à travers le Canada et les États-Unis. Et ils vont avoir la possibilité, avec cette loi-là, de pouvoir renégocier leurs baux. Et ça, ça différencie de ce que plusieurs personnes pensaient qu'ils pourraient y aller en liquidation. Ce qui, ici, ce qu'on appelle aux États-Unis le Chapter 7. Donc, il y aurait pu littéralement aller liquider les actifs, WeWork. Qu'est-ce qu'un actif pour WeWork? Ben, c'est les baux commerciaux. Et bien entendu, tout ce qu'ils ont été capables de créer en termes de brand. Je pense que ce serait peut-être les deux plus gros actifs que je verrais dans cette organisation-là, le brand et les baux. Et ça leur aurait donné également la possibilité à un acheteur de pouvoir renégocier ces baux-là à la baisse. Ça, c'est très important de le dire. Donc, on est de retour au podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et je suis en compagnie de mon collègue de toujours, Jonathan Léveillé. Jonathan et moi qui, hier, avons finalement trouvé notre destination pour notre voyage en début d'année, Joe.
Absolument. On espère, on espère. On a, je pense, un beau plan sur la table avec le groupe d'affaires dans lequel on partage tout du côté personnel et professionnel. Et là, la retraite qu'on fait annuelle, on a, je pense, une bonne direction d'où on devrait aller, là.
On va faire des podcasts discussions d'affaires, j'imagine, là, en direct, là.
Ah, ça serait, je pense que ça serait une bonne idée, honnêtement. Selon, là, on peut pas encore dévoiler la destination parce que c'est secret pour l'ensemble des autres membres qui font pas partie de l'organisation. Mais je pense que ça pourrait être intéressant, effectivement, de faire un petit podcast en direct de la destination qu'on aura choisie, là.
On vous en dira plus bientôt. Bon, on revient aux nouvelles, les nouvelles importantes. Je n'ai finalement plus de bureau. Donc, bon, on en a parlé pendant plusieurs mois sur le podcast que WeWork était dans une situation assez difficile. Ils perdaient des centaines de millions par trimestre. J'ai vu les états financiers du dernier trimestre. Ce n'est pas tellement mieux. Rumeurs sortaient dans le New York Times et le Wall Street Journal la semaine dernière, puis habituellement, quand ces médias-là mettent des nouvelles de l'avant, ils ont des sources très, très bien placées. Des rumeurs comme quoi WeWork allait se mettre en ce qu'on appelle le Chapter 11 aux États-Unis, donc sous la faillite, littéralement, sous la loi de la faillite. Et ça s'est révélé hier, donc hier, le lundi 6 novembre, ça a été rendu officiel. WeWork est maintenant en faillite, Chapter 11, pour leur localisation au Canada et aux États-Unis. Donc, pour le moment, on va utiliser le terme pour le moment parce que c'est sûr et certain que je pense que le futur risque d'être quand même assez complexe pour eux. Leur localisation en Europe, en Asie, ne sont pas en danger, et même dans d'autres continents également, ne sont pas en danger pour le moment. C'est vraiment au Canada et aux États-Unis que WeWork s'est placé sous la loi du Chapter 11. Jonathan, ton impression?
Et ça fait quand même un bout, Antoine et moi, qu'on en parle sur le podcast. J'avais parié sur le fait que ce serait arrivé 30 jours plus tôt, à voir la rapidité à laquelle qu'ils brûlaient de l'argent versus ce qu'il restait dans leur coffre, surtout après, un, la réinjection de milliards de dollars de SoftBank et après ça, la levée de fonds par rapport à leur IPO en bourse. Fait qu'il fallait s'en attendre. En même temps, c'est tellement gros qu'on se dit ça peut pas arriver. Et là, c'est arrivé. Moi, je suis curieux, Antoine, de savoir, de ton côté, tu as des équipes dans des WeWork à Montréal présentement. Qu'est-ce qui arrive dans ce genre de cas-là? Est-ce que vous avez été avisé à l'avance? Est-ce que là, c'est une surprise, vous l'avez appris par les médias? Est-ce que les gens peuvent quand même accéder à leur bureau? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là?
Plusieurs points ici. Donc, d'un, on a été des très grands visionnaires. En regardant les états financiers, on a vu qu'il y avait anguille sous roche et on a trouvé des nouveaux bureaux. Donc, je pense qu'à partir du début de l'année 2024, toutes nos équipes à Montréal déménage dans des nouveaux bureaux. Donc, ne vous inquiétez pas pour nous, tout est OK. Il y a même des gens à l'intérieur de chez WeWork qui ont tenté de nous convaincre de rester pour une année de plus. Et c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Moi, je tiens à le dire, je l'ai même dit sur LinkedIn, les gens chez WeWork, ils ont été formidables à travers les années. Et c'est le terme un petit peu que j'utilisais, de l'externe, ça paraissait trop beau pour être vrai. Et effectivement, c'était trop beau pour être vrai. C'est un service qui est excessivement fascinant, intéressant, quasiment parfait pour le consommateur, mais force est d'admettre qu'il n'y a aucune thèse de profitabilité derrière, ce qui pousse une organisation comme WeWork à brûler des centaines de millions par trimestre. Maintenant, dans le pratico-pratique, eh bien, plusieurs petits points à amener à notre audience aujourd'hui. Donc, Chapter 11, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les États-Unis et le Canada? Eh bien, ça donne la possibilité à une organisation comme WeWork d'aller littéralement relever du financement, de se protéger de ses créanciers. Et la chose la plus importante, et ça l'a été dit dans différents communiqués qu'on mettra dans les notes de l'épisode, ça va leur donner la possibilité d'aller renégocier leurs baux commerciaux. Donc, ils ont un paiement mensuel pour différents édifices, pour différents endroits, localisations qu'ils ont à travers le Canada et les États-Unis. Et ils vont avoir la possibilité, avec cette loi-là, sous la loi du Chapter 11, de pouvoir renégocier leur bail. Et ça, ça différencie de ce que plusieurs personnes pensaient, qu'ils pourraient y aller en liquidation. Ce qui, ici, ce qu'on appelle aux États-Unis le Chapter 7. Donc, il y aurait pu, littéralement, aller liquider les actifs, WeWork. Qu'est-ce qu'un actif pour WeWork? Ben, c'est les baux commerciaux. Et bien entendu, tout ce qu'ils ont été capables de créer en termes de brand, je pense que ce serait peut-être les deux plus gros actifs que je verrais dans cette organisation-là, le brand et les baux. Et ça leur aurait donné également la possibilité à un acheteur de pouvoir renégocier ces baux-là à la baisse. Ça, c'est très important de le dire. Donc, ce qu'ils disent, et ça nous amène un petit peu à qu'est-ce qui nous arrive, nous, à court terme, c'est qu'ils vont tenter, et je vais utiliser le terme tenter, de renégocier leurs baux avec la majeure partie des édifices, des localisations qu'ils ont partout aux États-Unis, partout au Canada. Je ne serais pas surpris qu'un très haut pourcentage de ces édifices, de ces localisations-là qui ferment parce que le taux d'occupation est trop bas. WeWork avait comme envie, ou plutôt, c'était peut-être un petit peu la pensée utopique de dire qu'ils ont été frappés très fort pendant la COVID. Ils pensaient qu'ils étaient l'organisation la mieux placée après la COVID. Ça ne s'est pas révélé le cas. Même si ça peut paraître sexy sur le papier de dire une organisation va avoir un WeWork. Donc, comme ça, les employés peuvent aller quelques fois au bureau et le reste du temps, vous travaillez de chez eux. Ça ne s'est pas matérialisé en revenus pour l'organisation, en revenus plus forts que ce qu'il pouvait y avoir avant la COVID. Donc, ce qui se déroule au moment où on se parle, il risque d'avoir des localisations qui vont être fermées. La majeure partie d'entre elles, il va y avoir des négociations entre les propriétaires d'immeubles et WeWork pour tenter de trouver un arrangement pour un beau commercial moins élevé. Et le dernier point, ils vont avoir à relever de l'argent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus d'argent dans les coffres. On le dit plusieurs fois sur le podcast, il n'y a plus d'argent dans le compte de banque, il n'y en a quasiment plus. Et même que récemment, ils n'ont pas été capables de payer les intérêts sur leur dette. C'est ce qui se déroule pour le moment avec eux. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils doivent renégocier. Ils doivent trouver de l'argent. Et pendant ce temps-là, nous, on n'a pas eu, en tant que client, d'avis comme quoi qu'il y avait des changements. Peut-être on va en avoir, mais si on lit bien ce qu'ils disent, WeWork ne veut pas arrêter d'opérer. Et peut-être le dernier point que je dirais là-dessus, cette situation-là est arrivée pour une organisation très similaire à WeWork, qui est Regus, en 2003. Regus était mis sous, je ne sais pas si le terme, c'est la loi de la protection de la faillite aux États-Unis, donc juste pour être certain de bien utiliser le terme, je vais utiliser les lois du Chapter 11 aux États-Unis. Regus l'avait fait en 2003 et en date d'aujourd'hui, donc en 2023, ils continuent d'opérer. Donc, ils ont été capables, eux, de relever du financement, de renégocier des baux commerciaux avec leurs propriétaires d'immeubles et de trouver ultimement une thèse de profitabilité. Pour les gens qui ne le savent pas, Regus, c'est un compétiteur direct à WeWork. C'est essentiellement la même chose, mais en moins sexy. C'est moins intéressant pour les gens d'être chez Regus que chez WeWork dans la manière que tout est construit à l'intérieur même des édifices. Donc ça, c'est la situation actuelle et ça nous met, nous, dans une structure où est-ce qu'on attend d'avoir des informations sur la suite. Moi, j'espère juste avoir mon dépôt de bye-bye, entre parenthèses, parce que comme n'importe quelle organisation, on paye un dépôt quand on arrive et on reçoit le dépôt 30 jours après sa sortie. J'espère qu'ils vont avoir encore assez d'argent pour me payer mon dépôt quand je vais partir.
Combien le dépôt, Antoine, si c'est pas trop indiscret?
Ah, ça, c'est dans les 5 chiffres. Donc, on va espérer que le dépôt nous revienne.
Écoute, si on regarde les états financiers, il reste 200 millions là dans les coffres sur ce qu'on appelle le trailing 12 months. Et je regarde ces chiffres-là pour donner un petit peu de comparaison puis de sortir un petit peu, de se décoller le nez de l'arbre. Il reste 200 millions dans les comptes et il brûle, de ce qu'on voit, les derniers états financiers, là, à peu près 75 millions par mois. C'est probablement pour ça qu'ils ont dit, gars, on arrête cela parce que sinon, il ne restera plus rien pour rembourser les dépôts. Mais ils ont quand même des frais d'opération présentement. Je serais curieux de voir s'il faut qu'ils payent leur loyer pendant la renégociation. Ça va être intéressant à voir, mais ça se peut que les propriétaires des meubles disent non, nous on renégocie pas, puis on saisit l'ensemble des lieux pour avoir l'ensemble des améliorations locatives qui sont faites parce qu'il y a tellement d'argent qui est mis dans les locaux. Moi, je pense que être un propriétaire.
L'enjeu, Jonathan, c'est que personne ne veut ces locaux-là au moment où on se parle. C'est ce qui se déroule. C'est que même si le propriétaire veut reprendre ça, si on regarde les taux d'occupation dans des grandes villes comme San Francisco, New York, les bureaux sont sensiblement vides. Donc, moi, j'ai l'impression que, en toute honnêteté, c'est un mouvement stratégique quand même intelligent parce que c'est pas comme si le marché immobilier commercial était en forte demande et en forte croissance au Canada et aux États-Unis avec la nouvelle dynamique dans laquelle on vit au moment où on se parle. Donc, à moins que je me trompe, je pense que c'est surtout ça qui a été pensé de leur côté, Je pense pas que les propriétaires veulent tant réavoir tout ça parce qu'il y a pas beaucoup de demandes pour ces locaux-là. À moins que je me trompe. Mais si on regarde bien les taux d'occupation dans les grandes villes, c'est excessivement bas. C'est excessivement beau au moment où on se parle.
Mais il y a quelque chose qui est quand même, je dirais, louche, puis ça corrèle peut-être avec ta théorie, mais si on regarde juste avant la pandémie, en décembre 2019, ils ont déclaré 3,4 milliards de revenus. Ils sont pratiquement à 3,4. Là. Ils sont revenus à juste ce qu'il y avait avant la pandémie présentement. J'ai l'impression que c'est la pandémie qui leur a fait tellement mal de baisser les liquidités disponibles. On voit qu'ils ont vraiment réduit les dépenses parce que si on regarde en 2021, ils ont eu 1,7 milliards de dollars qui est sorti négativement en bas de la ligne. On est tombé à 0,5 milliards à ce moment-là l'année passée, en 2022. Puis sur une traînée 12 mois, présentement, on est à 0,3. Là, donc, 0,3, c'est quand même gros. Là, on parle de 300 millions. Là. Mais ils étaient proches d'arriver à un équilibre qui pourrait faire du sens devant nous. Fait comme tu dis, s'ils renégocient les baux, ils peuvent peut-être y arriver puis réussir à survivre. Là.
Si tu prends, disons, la majeure partie des localisations, parce que c'est ce que la Fed va leur donner, et qui ferme celles qui sont simplement non fonctionnelles, que le taux d'occupation est rendu en bas de 50%, si on prend le chiffre de 50% ici. À mon avis, le chiffre magique doit être entre 50 et 70% pour eux. Si t'es en bas de 60-50% taux d'occupation, ça doit être un immeuble qui a pas de possibilité d'être profitable. Mais à mon avis, en 70, très proche de 80%, c'est là qu'il doit y avoir une thèse de profitabilité. Si tu fermes ces immeubles-là qui sont non profitables, tu gardes ceux qui sont profitables et t'es capable de renégocier avec les propriétaires d'immeubles à la baisse, ben oui, t'arrives pas tellement loin d'une thèse de profitabilité, tu sais. Écoute, c'est à voir, mais ils vont avoir besoin de faire une ronde de financement. Il va falloir qu'ils retrouvent de l'argent. Ils ont pas le choix, il y en a plus assez.
Cette théorie-là, par contre, elle est bonne si les clients restent là. Et là, avec cette annonce-là publique et toutes les rumeurs depuis plusieurs mois, on le voit, t'en es la preuve vivante que les gens bougent pour aller ailleurs. Moi, ma théorie, c'est que même s'ils renégocient leur baux de 25 ou de 50%, il va y avoir tellement de clients qui vont sortir, puis tellement peu de nouveaux clients qui vont décider d'aller là, que moi, j'ai l'impression qu'ils ont signé leur arrêt de mort. Ils vont l'essayer, mais je pense pas que ça va passer dans le cadrage de porte, pour donner une bonne expression québécoise, mais pour moi, c'est le dernier clou dans le cercueil. Là.
À voir. Écoute, c'est des bonnes questions, parce que effectivement, ça sera pas difficile. Je pense que ce qui est important aussi de mentionner, c'est que pour l'expérience consommateur, l'expérience utilisateur est totalement formidable. Donc, moi, c'est vraiment ça qui nous a fait quitter WeWork. C'est cette peur de, finalement, du jour au lendemain, on se fait couper notre bureau, mes employés peuvent plus aller travailler au bureau. C'est pas tout le monde qui a un bel environnement chez eux pour travailler. Donc, on a besoin d'avoir des bureaux, du moins, c'est ce qu'on pense. Donc, c'est ça qui nous a fait partir. Mais enlève ce brouillard-là un petit peu, ces questionnements-là qu'on pouvait avoir, on serait resté là. Donc, écoute, s'ils sont capables de démontrer tout ça, je pense que ça peut aider. Je pense que ça va être complexe. Ceci étant dit, tu vois, Regus a été capable de le faire. Ils ont été capables de présenter un plan qui fait du sens. Ils sont toujours en opération aujourd'hui. C'est une organisation qui est présente dans énormément de pays, qui ont un modèle un tout petit peu différent. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour eux de négocier des baux. On n'est pas dans un marché en pleine expansion au niveau commercial. Au niveau commercial, je veux dire, si on regarde la majeure partie des... Ben, on va en ville en ce moment, que ce soit à Montréal, que ce soit dans d'autres villes américaines, c'est pas comme si... Les buildings étaient pleins, là. C'est beaucoup plus difficile de ramener des gens. Donc, je pense qu'ils sont dans un environnement qui peut être intéressant pour négocier tout ça. Bref, à suivre.
Et deux items pour vraiment ratisser le sujet large à ce niveau-là. La première des choses, c'est, faut se rappeler, là, il y a 5 ans, WeWork était évalué à 47 milliards US. Aujourd'hui, zéro.
44 millions. Je pense que sur le marché boursier, c'est 44 millions en ce moment.
Mais ça, c'est pour la partie qui les actions qui sont en bourse. Il y a une partie aussi qui est en private, je pense, sur le côté, sur le sideline. Mais la réalité, c'est que si on regarde les états financiers, il y a plus de passifs que d'actifs au bout de la ligne. Fait que théoriquement, il y a une valeur que je pense qui est là juste à cause du nom qui était quand même affecté au bout de la ligne à travers tout ça. Et c'est juste une confiance que certaines personnes ont ou qui ont simplement oublié de vendre leur action. Il y a peut-être juste ça qui donne une valorisation potentielle. L'autre item qui est intéressant, c'est de voir la sortie de Adam Neumann, qui est l'ancien CEO et fondateur. Je ne sais pas si tu as vu le statement qu'il a fait.
C'est un grand génie.
Il est sorti au bon moment. C'est lui le plus grand gagnant de tout ça. Je pense qu'il a empoché au-delà $1 milliard à sa sortie quand il s'est fait pousser à l'extérieur de WeWork. Et là, aujourd'hui, il sort publiquement pour dire qu'il est très triste de voir la finalité de tout ça. Et je le comprends, là. Tu pars une entreprise, tu y crois, puis finalement, l'entreprise part de... une des plus belles entreprises au monde à pratiquement valoir zéro et se placer sous Chapter 11. Par contre, il y a peut-être pas tard dans quelque chose qu'il dit. Il mentionnait qu'il trouve ça triste d'être sur la ligne de côté puis de voir tout ça arriver alors que le produit du coworking est un produit qui est encore plus relevant aujourd'hui après la COVID, de fractionner à ce moment-là les bureaux puis de le rendre accessible aux gens. Et il y a pas tard là-dessus, là. Aujourd'hui, entre avoir un grand bureau ou des petits bureaux fractionnés qui sont flexibles, l'offre, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui et WeWork, sans Newman à sa tête, n'ont pas réussi à capitaliser là-dessus, ou du moins avaient tellement un passif lourd par le passé de ce qu'ils ont signé que ça les a écrasés à travers le temps. Mais reste que le coworking aujourd'hui est quelque chose, je pense, qui est encore plus positif que qu'est-ce que c'était avant la COVID. WeWork, malheureusement, n'a pas réussi à se tourner assez vite pour prendre avantage de tout ça. Et là, ça laisse la place, je pense, à des plus petits joueurs. On le voit en banlieue, il y a beaucoup de coworking qui se sont ouverts, que je pense qu'ils vont recevoir un affluent de nouveaux clients de manière positive. La personne également que tu as interviewée sur le podcast, j'imagine, ça va être très positif pour lui, pour ses 12 coworking dans la région du Grand Montréal. Donc, ça va être, je pense, intéressant pour d'autres joueurs, là.
Ben, écoute, je pense que c'est ce qui se déroule et je pense que tu l'as excessivement bien dit. Le marché du coworking ne s'en va pas. Au contraire, il est là pour rester, mais il doit y avoir un modèle d'affaires qui fait du sens. Et il faut arrêter de penser que WeWork, c'est une entreprise technologique. Ça a été la chose la plus stupide, je pense, de l'histoire. C'est que la valorisation de l'organisation était à 41 milliards de dollars et tout ce qui était dit, autant dans le modèle de croissance que dans la manière qui s'était présenté, on voyait ça comme si c'était une entreprise technologique, simplement à cause d'une narrative totalement formidable de Adam Newman. Donc, je pense que il y a eu certaines personnes qui ont dormi un petit peu là-dessus pendant quelques années, quand au final, c'est une organisation qui est dans le domaine de l'immobilier commercial. Peut-être qu'il y a un point qui est intéressant à mentionner. Je pense que c'est David Sachs qui en parlait récemment sur le podcast All In, et j'avais trouvé ça excessivement intéressant, qui mentionnait que peu importe ce qui se déroule, dans une optique que WeWork vend et que quelqu'un qui rachète le tout, la personne qui va racheter va faire une fortune. Va faire une fortune parce qu'il y a énormément de valeur à travers tout ça, s'ils sont capables, bien entendu, de négocier les baux commerciaux. Je veux dire, tout est déjà en place, les installations sont déjà construites, et c'est grâce aux installations qu'ils sont capables d'être beaucoup plus intéressants qu'un Regus, par exemple. Donc, une personne est capable de reprendre ça, de négocier les baux commerciaux à la baisse et de faire en sorte que l'organisation soit capable de survivre à une expansion moins intense. Je pense que là, ça peut être un modèle excessivement fonctionnel. Tu vois, moi, au moment où on se parle dans le podcast, je fais le podcast dans un coworking ici en Espagne qui s'appelle le One Cowork. Et il y a cet exemple-là. Il y a Head Office qui est venu sur le podcast récemment. J'ai l'impression que ces petites entreprises très locales qui développent de manière lente leur expansion va avoir beaucoup de succès dans la suite. Mais davantage des entreprises locales, je pense que l'erreur a été faite de grandir aussi vite, parce qu'on sait, une expansion, ça coûte beaucoup d'argent. C'est important de faire une expansion, mais quand tu fais une expansion, ultimement, tu dois avoir un produit qui a des marges bénéficiaires qui sont élevées. Donc, dans la tech, vendre des espaces publicitaires comme les entreprises qu'on connaît, les marges brutes sont excessivement élevées. Tu peux te permettre de le faire parce que quand tu arrives dans un nouveau marché et que ça fonctionne, par la suite, ces marges-là vont pouvoir justifier tout ça.
Ou un financier qui a les poches pleines à la SoftBank. C'est ça qui est arrivé dans le cas présent. C'est SoftBank qui est venu couvrir cette partie-là.
Personne ne succombe. Il y a beaucoup d'analystes qui, pendant très, très longtemps, ont eu énormément de doutes. Je vais essayer de retrouver son nom sur la possibilité même que WeWork puisse faire de la profitabilité sur le long terme. T'sais. Donc, ces personnes-là ont eu raison aujourd'hui. Donc, ça, je pense que c'est un point qui est très, très, très important à mentionner. Donc, oui, se sont fait financer, mais il n'y avait pas de test de profitabilité. Donc, bref, on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont été aveuglées là-dedans. Est-ce que c'était intentionnel ou pas? C'est assez spécial parce que, effectivement, une organisation, si elle ne fait juste jamais d'argent puis elle n'est pas capable de prouver comment qu'elle va en faire, pourquoi continue à financer ça, pour qu'on ne dise pas « arrête un peu de faire ton expansion ».
C'est là à se demander à quel point le charisme d'Adam Newman a joué un rôle extrêmement important dans toute cette saga-là, dans toute cette histoire-là, parce que si on enlève un personnage à Adam Newman dans tout ça, je pense pas qu'il aurait été capable d'aller lever autant de sous au final d'autant de grands financiers qui normalement eux savent compter et savent poser les bonnes questions, et là ça n'a pas été le cas. Donc à quel point qu'une personne peut faire toute la différence dans la propulsion d'une entreprise, ou du moins d'en couvrir les faiblesses d'un modèle d'affaires d'une entreprise, entre autres par son charisme, puis par un brand fort, puis par une vision qui est attirante pour les gens. Je pense que c'est ça qui est arrivé au bout de la ligne.
Et des taux d'intérêt à 0%. Je pense que c'est ça aussi. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui se déroule. C'est que les années, et je pense qu'on va le voir dans le futur, qu'on va regarder en arrière les années 2010 jusqu'à la fin de la COVID, juste avant que les taux d'intérêt montent. Si on regarde une année après l'autre, les taux d'intérêt étaient tout le temps 0%. Il y avait énormément d'argent dans le système qui circulait abondamment avec des organisations qui finalement avaient pas tellement sens. Tu vois, récemment, on parlait, toi et moi, sur le podcast de Loom. s'est fait acheter, de Atlassian qui peut-être perdait de l'argent, mais qui avait une suite de produits assez exceptionnels, réinvesti en acquisition d'entreprises, achète des organisations, investit dans son acquisition organique. C'est des produits qui ont des marges brutes élevées et qui peuvent se le permettre et qui ont de l'argent dans le compte de banque. Donc bref, le portrait financier fait du sens. Mais d'un autre côté, WeWork, et tu l'analyses pendant très, très longtemps, le portrait financier n'a juste jamais vraiment fait de sens. De l'externe, l'organisation est exceptionnelle et toujours exceptionnelle. Comme je dis, c'est trop beau pour être vrai. Mais je pense que de l'interne, pendant longtemps, les gens le savaient que c'était pas tellement beau. Mais quand tu as accès à du capital aussi facilement, eh bien là, à un moment donné, il y a des gens qui peuvent tomber aveugles, se dire que c'est normal ce qui se déroule et faire beaucoup d'erreurs. Je pense que très rapidement, mettons qu'on prend cette histoire-là et on l'amène en 2023, 2024, 2025, où est-ce que, soyons honnêtes, les taux risquent de rester entre 3 et 5 de ce qu'on voit en ce moment, de ce qui a été dit. Mais personne va donner autant d'argent à un Adam Newman en ce moment. Personne, parce que les gens sont au courant que l'argent coûte cher, que ce n'est pas accessible à tous. Je pense que c'est ça qui se déroule dans un marché où est-ce que littéralement l'argent est offert, que quasiment aucun pourcentage d'intérêt et ça crée beaucoup de stupidité. Donc, je pense qu'avec du recul, ça va être une bonne leçon pour beaucoup d'organisations. Là.
J'aimerais tellement pouvoir être un petit oiseau puis voir comment ça a été le pitch d'Adam Newman avec la SoftBank pour lever autant d'argent en cours de route, puis de réécouter ça aujourd'hui, cet enregistrement-là, si ça existait, pour remettre ça en perspective, parce que c'est sûr qu'il était convaincu que ça allait être rentable à un moment donné, c'est sûr qu'il était convaincu. Puis en même temps, si on enlève la COVID de tout ça, qu'est-ce qui serait arrivé?
Adam Newman a été renvoyé en 2019, donc le son de cloche est arrivé avant la COVID. Après, il y a eu la COVID, ils ont perdu énormément d'argent. Je pense qu'il y avait un plan de restructuration qui a été mis en place. Ils ont fait leur émission publique en 2021. Okay? Donc en 2021, émission publique, je pense qu'on avait parlé 8 milliards de dollars, si ma mémoire est bonne, 8,5 milliards de dollars au moment qu'ils sont rentrés sur le marché boursier, 44 millions aujourd'hui, la valorisation boursière, ça vous donne une idée quand même. Le plan de restructuration avait déjà été mis en place avant même la COVID. Après, la COVID a rendu tout ça très catastrophique, là. Donc, je pense qu'il y avait déjà cette idée-là en tête que, écoute, ça s'en allait nulle part, tout ce qui se déroulait. Puis, j'aimerais aussi mentionner un truc, c'est que dans le plan de restructuration, le CEO David Tolley, puis je suis en train de lire l'article au moment où on se parle, il dit littéralement, on va renégocier tous nos baux commerciaux au Canada et aux États-Unis. Tout. Et littéralement, c'est ce qui est dit. Et ça fait juste du sens. Et c'est pour ça que je pense que ça serait vraiment intéressant d'être un peu, le, comme tu dis, dans ces réunions-là et d'être le CFO en ce moment peut-être de WeWork, puis de se dire, OK, dans le marché actuel, soyons honnêtes, les bureaux sont vides, les édifices sont vides. Entre parenthèses, ici, il y a certaines villes qui ont un taux de personnes qui sont présentes un petit peu plus que d'autres, mais globalement, États-Unis ou Canada complet, ce n'est pas la même chose que c'était auparavant et ça va peut-être jamais ne l'être. Donc, automatiquement, la demande est plus basse. L'offre ne peut pas rester la même et ça a dû être des ententes qui ont été prises. Il y a un bon bout de temps de ça. À mon avis, WeWork, dans les derniers 2-3 ans, n'a pas dû ouvrir beaucoup de WeWork avec leur situation actuelle. Je pense que l'expansion a dû sensiblement être mise sur pause. Donc, si les baux ont été négociés il y a plusieurs années de ça et que la demande a descendu, on va prendre un chiffre de 20 ou 30 %, normal que l'offre change aussi. La situation actuelle n'est pas la même. Donc, est-ce que s'ils sont capables d'avoir un 60 cents sur le dollar en termes de négociation, 50 cents sur le dollar, ou bref, 70 % de ce qu'ils payent au moment où on se parle, est-ce qu'une thèse de profitabilité, c'est peut-être là le jeu qu'on ne sait pas. Et il faudrait analyser concrètement comment ça s'est mis en place avec Regus en 2003. À mon avis, ça devait être quelque chose de similaire à ça aussi, pour voir un peu comment ils s'en ont sortis, parce qu'encore une fois, je le répète, Regus est une organisation qui est encore en place aujourd'hui. Donc moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Si après ces négociations-là, ils peuvent arriver à être pas tellement loin de l'équilibre. Et soyons honnêtes, un brand, ça a de la valeur. Donc s'ils sont capables de perdre un peu moins d'argent, de maintenir le brand WeWork, d'être intéressant pour leurs clients sans être superflu comme ils l'ont pu l'être peut-être au début des années 2010. C'est ce qui a causé beaucoup de pertes. Ça peut être une organisation qui tient la route. Mais bon, il y a beaucoup de si là-dedans. Entre-temps, ils doivent relever de l'argent, mais tout va se jouer au niveau de la négociation. Et la seule manière qu'ils pouvaient ouvrir ces négociations-là, c'est s'ils se plaçaient sur un chapter 11. Tu peux pas les remettre en place sinon ces négociations.
Et durant la COVID, on a vu beaucoup d'autres entreprises le faire pour être capable de jouer à armes égales à la sortie de la COVID. Fait qu'on pense entre autres à Montréal, à Aldo, qui était un beau fleuron québécois, qui je pense il l'est encore aujourd'hui, qui a, je pense, profité de manière avantageuse de cette logique-là ou cette stratégie-là pour venir renégocier ces baux et avec obligation pratiquement, parce que sinon tous les autres compétiteurs, eux, l'avaient fait. Même Simon se demandait publiquement à savoir s'il devait le faire pour réussir à se battre à armes égales, parce qu'il ne détient pas tous ses magasins. Il a décidé de pas le faire pour une question de valeur et d'éthique, mais malgré qu'il a un modèle un petit peu différent de tous les autres compétiteurs, il doit s'en sortir mieux au final. Mais bref, je pense qu'ils n'ont pas le choix, WeWork, de le faire. Ça va être intéressant de suivre la suite des événements dans les prochains trimestres, là.
Parce que s'il arrive à le faire, je le redis, c'est un brand qui a de la valeur, a été bien entendu écorché depuis plusieurs années, soyons honnêtes, mais ils ont construit quelque chose d'assez exceptionnel en termes de reconnaissance. Et il n'y a pas eu de drame majeur, tu comprends? Il y a eu beaucoup de bruit dans les médias. Beaucoup de bruit, il y a eu des séries télévisées, mais le consommateur, la personne qui utilise leur service au quotidien n'a pas vécu de drame. Il n'y a personne qui est arrivé un jour puis il y a eu un pancarte devant leur bureau en leur disant « Aujourd'hui, vous pouvez pas rentrer. » Le consommateur n'a pas été impacté. Ça, je tiens à le dire et c'est pour ça que je dis que j'ai une grande admiration vers le service qu'ils offrent. Ils se sont fait écorcher dans les médias, écorcher sur plein d'endroits, mais le consommateur n'a jamais subi ça. Et eux vont s'en rappeler. Donc, s'ils peuvent passer à travers, démontrer une thèse de profitabilité, renégocier leur bois à la baisse, ils risquent avec le Chapter 11 de pouvoir s'en tirer sans payer leurs créanciers pendant un bon bout de temps. Et aller chercher quelques centaines de millions de dollars, écoute, ça peut peut-être les aider à passer à travers la tempête. À suivre.
Une dernière petite nouvelle, Antoine, avant qu'on termine le podcast d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Je sais pas si tu te souviens, il y a à peu près 9 mois de ça, je t'ai mentionné une nouvelle que les Beatles travaillaient sur, ou les survivants du groupe des Beatles travaillaient sur une nouvelle chanson qui allait être possible de publier grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu te souviens de cette nouvelle-là?
Bien sûr.
Et voilà, c'est fait. La nouvelle chanson des Beatles, la première chanson qu'ils lancent publiquement depuis 1995 est maintenant disponible en ligne sur toutes les bonnes plateformes, qui s'appelle Now and Then. Je sais pas, Antoine, si tu l'as écouté, mais moi, je l'ai écouté ce week-end et je l'ai dans la tête sans arrêt depuis ce week-end. C'est vraiment impressionnant. Puis pour vous mettre un peu en contexte, c'est un enregistrement sur une cassette. Et là, on recule loin en arrière. Là, c'est une cassette que John Lennon avait fait et qu'ils ont retrouvé dans son appartement après qu'il soit décédé. Les Beatles avaient essayé dans les années 90 de reprendre certaines de ces chansons-là qui n'étaient pas terminées, mais cette chanson-là, la qualité audio, elle était tellement médiocre sur l'enregistrement cassette qu'ils ont décidé de ne rien faire avec, ou plutôt de se dire un jour, la technologie sera probablement assez efficace pour qu'on puisse reprendre l'original de tout ça et de la compléter comme si c'était le groupe original qui allait le faire. Et ça a été fait. Donc, je t'invite à l'écouter, Antoine. Je t'invite, je sais pas si tu l'écoutes.
Je l'ai pas écouté, mais ce qu'on va faire, c'est que pour tous ceux qui écoutent le podcast en format YouTube, on va mettre l'enregistrement à la fin du podcast, comme ça les gens vont pouvoir écouter la musique en tout temps.
Et ce qui est spécial, c'est que les paroles de la chanson viennent chercher émotivement tout le contexte que John Lennon est décédé, que le groupe n'est plus actif comme c'était initialement au départ. Donc, une charge émotive dans cette chanson-là. Ils ont rendu également public l'enregistrement original. Donc, il y a possible d'écouter l'original, que le son est très, très, très médiocre. Et ensuite, un coup que l'intelligence artificielle a nettoyé l'enregistrement, a isolé chacune des couches de la musique. Et après ça, les membres restants ont décidé d'ajouter leur touche à travers tout ça. Il y a vraiment une charge émotive de comprendre l'historique de cette chanson-là, de comprendre que ça a été enregistré il y a plus de 30 ans de tout ça, là. Et là, aujourd'hui, ça prend vie. Donc, je pense que ça l'ouvre une porte à beaucoup de chansons d'artistes qui sont décédés ou de groupes qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui a eu des enregistrements qui n'ont pas été complétés, qui vont pouvoir, à ce moment-là, ressortir des chansons et même peut-être des chansons qui ne partent même pas d'enregistrements originaux. Donc, juste de faire écouter l'intelligence artificielle, ce que ces artistes-là ou ces groupes-là ont sorti pour proposer des chansons futures qui auraient pu être sorties par ces groupes-là. Ça a été fait, entre autres, pour Beethoven, pour une symphonie qu'il n'avait pas terminée. Et c'est assez impressionnant, le résultat. Si on va regarder dans 10 ans en arrière, ça va être le premier événement qui va être de manière mondiale au niveau de corréler l'intelligence artificielle avec la musique puis les artistes à ce niveau-là. Et je pense que ça ouvre une porte à beaucoup de choses positives en avant. Par contre, ça amène toujours une question d'éthique et de droit d'auteur qui arrive derrière tout ça. Ça va être intéressant à suivre dans les prochaines années où est-ce qu'on s'en va avec ça.
On mettra encore une fois tous les liens pour écouter le podcast. Jonathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui sont chez WeWork, ne stressez pas, je pense qu'ils ont un plan. Mais pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.